Avant de laisser le loisir à la salle, personne située dans cette salle, il n'y a pas d'auditeur abstrait, je voudrais d'abord peut-être redonner la parole au professeur Danquin, qui souhaite réagir peut-être à ce qu'a dit Pierre Avril et ce qu'a dit Bruno Daugeron.
Je veux bien, je vais réagir. Alors, d'abord, ça c'est pas une réaction, c'est une réparation. Je n'ai pas dit, je voulais le dire, mais comme il m'arrive parfois, j'ai préparé un discours, j'en ai fait un autre. Je voulais dire l'importance qu'a eu pour ce travail l'action de Bruno Daugeron, qui m'a énormément aidé dans la collection des textes, qui a retrouvé des choses dont moi je n'avais pas trouvé le fil, et donc qui a joué vraiment un rôle moteur dans cette entreprise. Je voulais le dire, je ne l'ai pas dit maintenant. Alors, en ce qui concerne ce qu'a dit Pierre Avril, ça m'a énormément intéressé. Et je voudrais prolonger ce qu'il a dit en observant une chose que je n'ai pas dite, mais qui me paraît devoir être dite, c'est que il est très intéressant d'aborder la pensée de Burdeau d'un point de vue méthodologique, parce que ce n'est pas ce que lui-même faisait. Je veux dire par là que de ce point de vue-là, il est plus tourné vers le passé que vers l'avenir. Il vit dans une espèce d'apesanteur méthodologique. C'est-à-dire qu'il ne se demande pas, quand il dit quelque chose, il ne se demande pas comment il le sait. Par quel processus intellectuel, par quel processus nosologique, disons, il est arrivé à la conviction qui est la sienne. Il a des convictions qui ne sont pas irrationnelles, je ne veux pas dire par là que ce sont des caprices intellectuelles, bien sûr, mais il arrive à des conclusions, mais il n'explicite pas, il n'éprouve pas le besoin d'expliciter les phases de sa réflexion. Et ça, ça nous gêne, et ça, de ce point de vue-là, ça ressemble parfois un peu plus à de Loriot ou à de Lesmin qu'à des auteurs de notre enfant. Donc je pense que adresser ce genre de questions Georges Burdeau, non seulement est légitime, mais en même temps, à la fois, permet d'avancer davantage dans la compréhension de sa pensée, éventuellement en situant les limites, mais aussi d'avancer davantage dans la compréhension des problèmes qu'il pose et sur lesquels il donne certaines réponses, alors que parfois on pourrait songer à en proposer. Alors, sur le point précis de l'homme situé et dans son rapport aux citoyens, je pense que sa réflexion est au fond une réflexion un peu de type Weberien, c'est-à-dire qu'au fond, plutôt que des réalités concrètes, ce qu'il entend par là, ce sont des types idéaux. Et ce qui personnellement me gêne, c'est au fond le fait que j'ai l'impression, et ça peut passer pour une facilité, j'ai l'impression que ces types idéaux, il a tendance à les rabattre sur des événements chronologiques. C'est-à-dire que quand il parle du citoyen, au fond, on reçoit ça comme un type idéal de ce que est censé être l'individu dans un certain type de gouvernement. Mais lui, il le présente un peu comme quelque chose qui se passait autrefois. Comme ce qui se passait du temps de la Révolution. Du temps de la Révolution, on disait que c'était comme ça, donc c'était comme ça. Pour ça, j'en suis personnellement moins sûr. Et donc, ce qui me gêne parfois, c'est ça. C'est le fait de transposer des oppositions qui sont finalement des oppositions logiques en oppositions chronologiques. On pourrait dire la même chose sur la démocratie gouvernée, la démocratie gouvernante. Et ce qui me choque, Bruno Daugeron a explicité ma pensée, mais je vais maintenant l'expliciter moi-même, ce qui me gêne dans cette formulation, c'est que je ne suis pas sûr du tout qu'il soit exact que la démocratie gouvernante ait été une démocratie ni objectivement ni subjectivement. Je crois qu'objectivement, elle n'en était pas une, et je crois qu'elle ne le devient subjectivement que par l'effet d'une illusion rétrospective. Parce que quand vous lisez les auteurs, Lesmin par exemple, ils ne parlent pas de démocratie, ils appellent ça le système représentatif, comme faisait Sieyès en 1789. Bon, le terme de démocratie est un terme polémique, mais comme il va s'imposer petit à petit, à la fin de la Troisième République, on pense en termes de démocratie, alors qu'au début de la Troisième République, on ne pensait pas en termes de démocratie. On dénonçait la démocratie comme le régime qu'on ne voulait pas parler seulement de République. Et là, il y a un changement fondamental qui se je le disais tout à l'heure, s'effectue à texte constant, parce que la Constitution les lois constitutionnelles de 75, elles restent identiques, sauf qu'elles ne sont plus comprises. L'exemple le plus évident étant le débat sur la légitimité d'un renversement de l'Assemblée du gouvernement par le Sénat. On discute parce qu'on dit que ce n'est pas démocratique, alors que le texte de 1975 dit que le gouvernement est responsable devant les chambres. Si on raisonnait dans les termes actuels, où on s'intéresse au texte constitutionnel, le problème serait résolu avant d'être posé. Sous la Troisième République, il ne l'est pas. D'abord parce qu'on ne raisonne pas dans les termes actuels, ensuite parce que le système a changé. Le système, la représentation globale du système a complètement changé, sans qu'une ligne soit changée, au moins depuis 1883, au texte de 1875. Donc là, il y a certainement un problème, mais moi, dans mon optique, qui est contestable dans toute chose, je la situerai plutôt, ce que je contesterai plutôt, si vous voulez, c'est le fait de rabattre l'opposition logique sur l'opposition chronologique. Et alors, en ce qui concerne la notion spécifique du pouvoir d'État, ce qui est frappant dans la première version du texte, je vous disais tout à l'heure, j'avais juxtaposé les deux versions, vous n'avez pas tort, apparemment, ce qui est frappant dans la première version du texte, c'est que là, on a l'impression soudain qu'il a le sentiment de pouvoir appliquer en quelque sorte, en clair, sa grille d'analyse à une réalité concrète. Ce qui était une idée très profonde, mais une idée, une abstraction, là, il dit, voilà, j'avais raison, l'abstraction, elle est dans le texte. Et alors là, effectivement, comme l'a dit Pierre Avril, et comme il l'a reconnu plus tard, il s'est rendu compte qu'il était allé trop vite en besogne et que les choses étaient moins simples.
Merci beaucoup pour cette précision. Est-ce que vous voulez réagir à ce qui a été dit?
Je crois que tout le monde est d'accord.
C'est vrai, on peut susciter artificiellement des clivages. Mais il est temps, dans ce cas-là, de donner la parole à la salle.